auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Eh bien voilà. Voilà, nous sommes déjà en février, et qu'est-ce qui se passe en février?
Bah, les jours allongent.
Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Alors on espère un peu plus de soleil aussi, mais là...
Un petit peu moins d'eau.
Voilà.
Mais c'est pas ça que tu voulais dire.
Non, non, non. Donc c'est bientôt, demain pour nos auditeurs, la Saint-Valentin.
D'accord, et donc, Saint-Valentin.
Comme l'année dernière, eh bien nous allons vous lire quelques lettres... d'amour, d'auteurs connus. Hein, on reste quand même dans les... Voilà. Alors, notamment d'auteurs dont on vous a déjà parlé un peu dans l'année.
On a fait tellement d'émissions.
Voilà, c'est ça, on ne sait plus où on en est. Voilà. Alors, donc vous reconnaîtrez en fond My Funny Valentine.
Valentin, Valentine, hein, là, vraiment. Alors moi, je peux peut-être dire un petit mot sur l'histoire de la Saint-Valentin.
Vas-y, vas-y.
Très rapidement, hein. Parce que des Valentins, des personnages au nom de Saint-Valentin, il y en a eu 8 apparemment. Il y a eu une pléthore. Et donc, celui qui est concerné par cette fête, il a vécu au 3e siècle à Rome. Il célébrait des mariages en secret contre l'avis de l'empereur Claude II, qui avait interdit le mariage des jeunes soldats pour avoir plus d'hommes à envoyer à la guerre.
Ah. Ah,
c'était un gars bien, Saint-Valentin. Bon, puis après, la fête est devenue commerciale au 19e siècle, en France et aux États-Unis. C'était petit rappel historique.
Très bien, très bien. Merci pour ces informations précises.
Ah bah oui, j'avais envie de voir. Mais tu vois, finalement, les petites fêtes comme ça, qu'on prend un peu à la légère, ça, finalement, il y a toujours une histoire derrière qui est intéressante.
Très bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer par Virginia Woolf et Vita Sackville-West, qui vont avoir donc une correspondance abondante entre 1923 et 1941. Alors, l'année dernière, on vous a déjà passé des lettres de ces deux femmes.
C'est vrai.
Mais voilà.
Là, moi, je renvoie les auditeurs à nos émissions. Vita Sackville-West, c'est la 3e émission. C'est la première que j'ai fait avec toi, Mireille. Et Virginia Woolf, la 68. Quand on se débrouille un peu, qu'on va sur le site de la radio, en principe, on les trouve.
Vous pouvez retrouver, voilà, très bien. Alors en fait, c'est à Londres, en 1922, donc au cours d'un dîner, que Virginia Woolf a rencontré pour la première fois Vita Sackville-West, qui allait être pour de nombreuses années une des deux ou trois personnes les plus importantes de sa vie. Alors leur correspondance va se poursuivre sur plus de 18 ans, mettant en exergue la profondeur de la passion qu'il y a à ces deux femmes exceptionnelles. Alors une passion qui, en dépit des orages de la jalousie et parfois de la fureur, leur apporta, jusqu'à la mort tragique de Virginia, le bonheur d'une tendresse et d'une réciprocité des désirs qui renaissaient, crise après crise, de leur cendre indestructible.
Oh, comme c'est bien dit, oui. Tel un phénix de cœur.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein.
Non, mais, on dirait.
Alors, je vous propose d'écouter donc une lettre que Virginia écrit à Vita, le 5 février 1927, alors que celle-ci est partie en Iran.
Samedi 5 février 1927, 52 Tavistock Square, Londres. Mon trésor bien-aimé, pas de lettre de toi depuis ton cheminement à travers les neiges de Westphalie, c'est-à-dire rien depuis lundi. J'espère que cela ne signifie pas que tu as été mangé par des brigands, naufragé, coupé en morceaux. Ça me rend plutôt lugubre. Cela s'aggrave régulièrement, le fait de ton absence. Tous les somnifères et tous les remontants ont cessé d'avoir le moindre effet, si bien que je suis là, installé dans le besoin de toi, obstinément, lugubrement, fidèlement. J'espère que cela te plaît. Mais moi, je trouve ça bougrement déplaisant, je puis te l'assurer. J'avais imaginé que je réussirais à tromper le diable en cachant ma tête sous mon aile et en ne pensant à rien. Mais ça ne marche pas. pas le moins du monde. Tu me manques ce samedi-ci encore plus que le précédent, et ainsi de suite, indéfiniment. Je suis assise devant le radiateur à gaz dans ma sordide chambre. Pourquoi faut-il que je ne puisse écrire que dans une pièce sordide ? Je crois que je serais incapable d'écrire un mot dans ta chambre de Longbarn. Les meubles où les gens peuvent s'asseoir impliquent des gens, et j'ai besoin d'une solitude totale. Cette idée est constamment dans mon esprit, et c'est pourquoi je deviens de plus en plus sordide. La traversée des apparences a été écrite dans une splendeur relative. Fitzroy Square, une bonne, des tapis, du feu dans les cheminées. La promenade au phare l'a été, lui, tu sais comment. Aussi, le prochain livre nécessitera-t-il un hangar ? Cela cadre parfaitement avec mon humeur du moment. J'ai fermé ma porte aux mondanités, je me suis enfouie dans un terrier humide et sinistre, où je ne fais rien d'autre que lire et écrire. C'est ma saison d'hibernation. Virginia.
Alors Virginia, elle, pour sa part, elle n'est pas, elle la laisse débattre hein, toute sa vie dans les affres de l'enfantement, de sa vérité de l'écriture, qui peu à peu l'acculerait au seuil de la folie. Mais au cœur de cette recherche torturante, elle jaillit Orlando, qui est un livre dédié à Vita. Et Virginia Woolf, donc, est une écrivaine qui va occuper une place centrale hein, au sein du mouvement moderniste du XXe siècle, et elle compte parmi les femmes les plus brillantes et libres de son temps.
Oui, et très en avance, parce que tu viens de parler d'Orlando, c'est un roman où le héros, bon, qui n'est autre probablement que Vita Sackville-West, le héros change de sexe, traverse les siècles, hein, ça démarre vers 1500 jusqu'à nos jours, donc pour l'époque, il faut bien resituer l'affaire.
Ça fait un gros scandale.
C'est quand même avant-gardiste. Parce
que surtout qu'il y avait des photos de Vita dans le
en
livre.
Plus.
Et donc, voilà, ça a créé.
Ça a défrayé la chronique.
Alors, ça va mal finir. Hein. Donc, oui. Virginia Woolf se suicide le 28 mars 1941 par noyade dans l'Ouse, la rivière près de Monk's House, donc sa maison de Rodmel. Elle laisse une note à son mari et une autre à sa sœur où elle évoque sa certitude de devenir folle, donc les difficultés de concentration et la détresse liées à la réapparition de symptômes psychiatriques graves, ainsi que la culpabilité qu'elle éprouve vis-à-vis de Leonard Woolf en raison de son état de santé.
Voilà, oui, aujourd'hui les psychiatres disent qu'on dirait d'elle qu'elle était bipolaire en gros.
Voilà. Et donc son corps est retrouvé hein, 3 semaines plus tard, le 18 avril. Et Leonard Woolf a enterré ses cendres dans le jardin de Monk's House.
C'est triste. Alors un tout petit mot à propos de Leonard Woolf. Quand même, c'est avec lui qu'elle cofonde la Hogarth Press en 1917, une maison d'édition indépendante, où seront publiés notamment Catherine Mansfield et Freud. Excusez du peu. Une maison d'édition quand même.
Alors, quant à Vita Sackville-West, elle a excellé dans l'art de la correspondance. Elle dépeint des jardins anglais ou les steppes de la Prusse, les montagnes de la Perse ou les déserts d'Arizona. Sa démarche est alerte, imaginée, avec un rien de malice dans la satire mondaine. Elle est poète, essayiste et romancière et devait être entre les deux guerres une des étoiles du fameux groupe littéraire et artistique dit de Bloomsbury, intime de Virginia. Donc, elle a correspondu avec elle pendant près de 20 ans. Donc là, on va écouter une lettre justement que Vita a envoyée à Virginia et qui date du 23 février 1927.
27, c'est la même année, oui.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en réponse à la lettre que Virginia lui a envoyée.
Téhéran, le 23 février 1927. Hier est arrivé le courrier de Russie, une moitié du moins, car les Persans sont incapables d'en distribuer la totalité en une seule fois. Ils nous jugent tout à fait irréaliste de nous attendre à ce qu'ils le fassent. Le résultat est qu'il arrive au compte-gouttes, s'étalant parfois sur plus de 3 jours. Mais hier, c'est la meilleure moitié qui m'est parvenue, car elle contenait une lettre de toi. Une longue et gentille lettre pleine de regrets de mon absence. Je venais de recevoir le chèque de Mohamera qui, de manière tout à fait déconcertante, était venu me faire visite en grand apparat à 11h du matin. C'est un superbe vieil arabe à la barbe noire et doté des plus belles mains que j'ai jamais vues, à la permanente exception d'Étienne, avec une bague ornée d'une grosse émeraude. Et puis, Après une demi-heure de conversation malaisée et d'incessantes tasses de thé, il a enfin pris congé et j'ai eu la possibilité de lire mon courrier. Une lettre de Raymond, une lettre de toi. J'ai plongé dans des abîmes de désespoir et de remords de ne pas t'avoir envoyé de télégramme. J'en avais l'intention pourtant. Et puis, je me suis dit que Léonard ouvrirait peut-être la dépêche et qu'elle le contrarierait. J'ai pensé alors que mère te tiendrait au courant, ainsi qu'elle l'avait fait l'an passé. Au fait, je ne puis supporter l'idée de revenir une troisième année dans ce micmac persan. Mais Harold a l'esprit très axé sur le type bâtisseur d'empire. Il me faudra une habileté énorme pour l'en détourner. J'ai rêvé un bon bout de temps après avoir lu ta lettre à ce que cela aurait représenté de t'amener ici. Le voyage t'aurait-il beaucoup fatigué ? Aimes-tu voyager ? Appartiens-tu à cette catégorie de voyageurs qui s'écrit sans cesse « Oh, regardez !» ou considères-tu tout et le reste comme allant de soi ? Qu'aurais-tu préféré ici ? T'amuses-tu à ce point du spectacle des hommes, simplement en tant qu'être humain ? Qu'il ne te reste plus assez de réserve d'énergie pour t'intéresser au site ? Quel effet cela me produirait-il de te voir là, assise dans la pièce ? Les gens changent tellement dès qu'on les arrache à leur décor habituel. On a beau croire très bien les connaître, on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas suffisamment pour être à même de prévoir la manière dont ils réagiront. Par exemple, Dottie. Je n'avais jamais compris à quel point c'était une enfant gâtée, n'ayant eu l'occasion de l'observer qu'en Angleterre, où les agréments du confort existent de façon automatique. Elle estime que Téhéran n'est pas un pays civilisé. Pas d'électricité, des bains tout ce qu'il y a de chiche. Que serait-ce vraiment s'il fallait vivre à la dure, si par exemple, on l'a laissé se joindre à notre expédition chez les Bakhtiaris, ce qui n'est pas le cas. Leg, en revanche, il saisit le truc immédiatement, il connaît le nom des rues, il déborde de curiosité. Dottie, non, elle ne consent qu'à se laisser trimballer comme un paquet. Cela m'irrite et je la couvre d'injures. Je ne me suis jamais permis l'an dernier de me livrer à de telles spéculations à ton sujet. C'était trop pénible et ça avivait trop le désir que j'avais de te voir. Pourquoi alors me le permettre cette année ? Eh bien, pour deux raisons. Un, parce qu'il y a cette possibilité de te rencontrer à Athènes. Et, de deux, il y a ce projet que tu as conçu pour l'Italie en octobre. Oui, naturellement, j'ai parfaitement compris qu'il devait y avoir de rudement bons motifs privés pour t'empêcher d'aller en Espagne en mai avec Daddy. Je ne crois pas que j'aurais jamais pu te le pardonner, mais rentre via la Grèce, au pays avec moi. Je n'ai pas écrit une seule ligne depuis que je suis ici. C'est vraiment dramatique. Je ne pense pas que je sois le moins du monde écrivain. Non, même pas journaliste. Si je l'étais, j'aurais au moins pondu une bonne douzaine d'articles. Et assurément non plus un poète. C'est une horrible stagnation du cerveau. Mais la partie littéraire du cerveau est quelque chose de tellement bizarre qu'on ne sait jamais si elle ne va pas faire un bond soudain qui lui permettra de retomber solidement sur ses quatre pattes. Je crois que c'est dû partiellement à un accroissement de mon aptitude à l'autocritique. Sans son contrôle, je serais sans aucun doute occupé maintenant à fabriquer l'un de mes lamentables romans. Oh, pourquoi n'étais-tu pas près de moi en ces temps-là pour me dire « ça ne va pas du tout » À présent, les idées me viennent et je me contente de les écarter, si bien que rien ne se fait. Je suis en train de lire les mémoires de Gide. Très décevant, me semble-t-il, jusqu'ici. Je n'ai, pour ainsi dire, rien trouvé qui me plaise, à l'exception de cette bille qui était tombée dans le trou de la porte. J'ai lu Justin Pilate, que j'ai apprécié. J'ai essayé Arabia Deserta pour la 50e fois, mais je n'y arrive pas. Il est certain cependant qu'il s'agit là d'une œuvre monumentale que celle de Justin Pilate. Quel est le secret de toute la combinaison ? J'aimerais bien que tu me le dises. Et puis, il y a ce problème de l'intelligence. Sommes-nous trop promptes à accorder trop d'importance à la simple faculté d'articulation ? Je veux dire, est-ce que Raymond est réellement quelqu'un de plus intelligent que le lieutenant d'ici, qui a commandé des Indiens toute sa vie ? Comment Raymond s'en sortirait-il si on le plaçait subitement dans une position de responsabilité et d'autorité ? En quoi sa perception des nuances les plus fines l'aiderait-elle dans la circonstance ? Et qu'est-ce qui est le plus important ? Ou bien est-ce simplement une question de différence, non de degré ? D'autre part, dans la mesure où la sensibilité est impliquée, je présume qu'il y a autant de sensibilité dans les concises remarques du lieutenant « Belle journée !» comme dans les montagnes « Ont belle allure !» ou « Quelle vue splendide !» que dans n'importe quel amoncellement de verbiage. Tout cela est très difficile. L'Union Jack flotte languissamment au-dessus du corps de garde. Un joueur de flûte passe dans la rue. À midi, les Messuines poussent un clapissement. Devant moi, par-delà le passage, s'élèvent les bâtiments du consulat et de la chancellerie, avec tout ce qui s'ensuit de bataclan gouvernemental, nous procurant la sécurité à nous qui somnolons au soleil et spéculons sur des subtilités. Pourquoi la bille de Gide dans la porte me donne-t-elle plus de plaisir que la vue des hommes affairés allant et venant, chargés de dossiers, dans l'enceinte du consulat ? J'aimerais vraiment savoir quelle est la signification de la vie et quelle place y tient réellement la littérature au regard de la divinité. Je voudrais bien enfin me contenter d'accepter les choses simplement parce qu'elles sont, au lieu de m'ingénier à farfouiller dans les origines pour découvrir pourquoi elles sont et de quoi elles sont faites. Pendant ce temps, Clive se dispute avec Mary et se raccommode avec Mary, va en France, ne va pas en France, et tout cela est très mystérieux et me revient dans tes lettres comme un écho, un plaisant écho qui amène un sourire sur mes lèvres parce que j'ai de l'affection pour Clive. Je crains qu'il n'y ait eu un long délai entre la lettre que j'avais mise à la poste de Bakou et la première que je t'ai écrite d'ici. Tu comprends, il n'y a pas eu de départ de courrier pendant au moins une semaine après notre arrivée. Tu ne peux imaginer, toi qui reçois des lettres 6 fois par jour grâce à l'espèce de souricière en fil de fer installée au pied de ton escalier, non, tu ne peux pas imaginer la colossale importance du courrier dans un endroit comme ici. C'est le seul événement qui ponctue nos semaines par ailleurs sans imprévu. Mais alors le domestique, le visage radieux, se précipite dans la maison pour annoncer « Le courrier est arrivé !» Il y a toujours un soupçon de miracle dans ce simple fait. Le courrier est arrivé. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de tempête sur la Caspienne. Le navire n'a pas sombré. L'auto n'est pas tombé dans un précipice. Le col n'a pas été obstrué par la neige. Le pont n'a pas été balayé par l'inondation. Le courrier est arrivé. Je n'ai pas encore trouvé de manteau pour toi, bien que j'aie cherché. Je pense qu'Ispahan serait mieux fourni, et c'est plus amusant de s'y procurer ce qu'on veut. Là ou à Shiraz. Quand auras-tu cette lettre ? Le 14 mars, je suppose. Rappelle-toi que la valise du 17 est le dernier courrier à pouvoir encore me joindre ici. Et de fait, ce n'est pas ici qu'il me joindra, car les lettres nous seront acheminées par porteur à Ispahan avant que nous ne nous mettions en route vers les Bakhtiari. J'essaierai d'écrire quelque chose sur cette expédition. La Perse revisitée ? De la Caspienne au golfe Persique ? Seigneur, ce qu'il va faire chaud sur le golfe et dans le désert ? Je vais te revenir mince comme un fil, bronzé comme une noisette et musclé comme un émigrant. À Athènes, s'entend le 28 avril. As-tu inscrit cette date bien solidement dans ta tête ? Oui, je suis heureuse de te manquer, même si cela te paraît bougrement déplaisant. J'avais cru déduire dans ta première lettre que je ne te manquais pas du tout, et cela me rendait toute triste. À présent, me voici de nouveau enchantée. Égoïsme, n'est-ce pas ? Mais je passe par les mêmes affres que toi, tu sais, cette douleur de ton absence et ce désir de toi, de telle sorte que je sais exactement combien c'est bougrement déplaisant, et sans doute encore mieux que toi. L'insecte pleure de temps à autre, et il faut que je l'éponge. Je crois qu'au total, il est un peu effrayé par la Perse. C'est trop grand pour lui. Au fait, envoie Pinker chez Louise, si elle veut qu'elle se sente comme chez elle pendant que tu seras en Grèce. Mademoiselle Louise Genoux, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle sera ravie d'avoir à s'occuper de Pinker. Je dois vraiment m'arrêter. As-tu sur toi ton tablier bleu ? Dans ta drôle de chambre sordide ? Non, je ne crois pas qu'un tapis gâcherait ta solitude. J'ai envie d'écrire un poème sur ta solitude. Tavita.
Voilà.
Donc, l'importance du courrier, hein, qui met 3 semaines apparemment.
Bah,
quand même.
Bah, c'est d'aller de Londres à Téhéran.
Acheminer. Ça...
à l'époque, ça devait être un peu compliqué quand même.
Un petit peu.
Alors, Vita, elle est aussi connue pour avoir participé à la création des jardins hein, au château de Sissinghurst, dans le Kent. Très beau jardin que j'ai eu le plaisir de visiter.
Oh, la chance. Oui, parce que c'est le jardin le plus visité d'Angleterre. Elle est, c'est une vraie paysagiste. Hein. Elle a même publié des essais d'horticulture.
Oui, oui. Des gens qui avaient des livres illustrés sur son jardin.
Donc, tu l'as visité.
Oui, je l'ai visité. Donc même son bureau où elle écrivait, tout ça. Ah, voilà.
Très, très agréable.
Alors, donc, elle menait donc une vie aristocratique, hein, assez exubérante. Donc, elle était mariée avec Harold Nicholson, et donc était un diplomate, hein, puis journaliste aussi, membre du Parlement, auteur de biographies et de romans. Alors donc, bien qu'elle soit mariée, alors son mari lui-même avait quelques relations masculines, et donc elle avait des amours passionnés hein, avec des femmes. Comme avec bien sûr Virginia, mais aussi d'autres femmes. Donc voilà. Alors, ça n'empêche qu'ils avaient quand même une relation étroite hein, entre eux. Ils ont même eu des enfants. Et donc, ils avaient une correspondance presque quotidienne hein, quand ils étaient séparés. Ouais. Voilà. Et comment ? Ils vont même donner un entretien à la BBC après la Seconde Guerre mondiale sur leur mode de vie.
Oui, des pareils, des couples très, très en avant sur l'époque sûrement.
Et donc, quoi qu'elle en dise dans ses lettres, en tant que poète, donc elle a quand même obtenu deux fois le prix Hawthornden, donc qui est elle était lauréate hein, de ce prix. Donc c'est un cas unique hein, dans l'histoire de ce prix littéraire.
Oui, c'est le plus ancien prix littéraire d'Angleterre quand même. Voilà. Donc,
Donc elle a quand même écrit 16 romans et puis des recueils de nouvelles. Donc des poésies, des biographies, des essais, des publications. Donc il y a un film aussi, hein, Vita et Virginia, de Shania Button, qui se focalise donc sur la relation de ces deux femmes. Alors voilà, maintenant on va vous parler d'un autre grand amour transatlantique, donc entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Alors en effet, hein, de 1947 à 1964, Simone de Beauvoir écrivit à Nelson Algren plus de 300 lettres d'amour. Cet amour donc transatlantique est pour elle l'irruption dans sa vie d'une brûlante passion. Nelson, ne sachant pas le français, elle va donc lui écrire en anglais et parce qu'elle désire ardemment faire entrer l'homme qu'elle aime dans son univers, dont il ignore absolument tout. Et donc, on va bénéficier comme ça un peu d'un reportage unique hein, sur la vie littéraire, intellectuelle et politique de ces années. Alors, sur Sartre et son petit clan, avec leurs activités, leurs mésaventures, leurs amours, tout ça raconté avec un humour quand même parfois un peu féroce. Hein.
Presque noir.
Donc... Alors, en 1947, elle est donc invitée par des universités américaines et elle découvre les États-Unis, où elle va y séjourner quand même de janvier à mai. Et c'est une amie new-yorkaise qui va lui conseiller, lorsqu'elle ira à Chicago, d'aller voir de sa part Nelson Algren, qui est un ami. Et donc, du coup, là, ils vont se rencontrer. Et ils vont passer ensemble donc une soirée l'après-midi du lendemain et de là va démarrer cette grande histoire d'amour.
Oui, il va lui faire découvrir les bas-fonds de Chicago hein, parce qu'on reparlera de lui tout à l'heure, mais il est issu un peu de ça.
Voilà, tout à fait. Donc là, je vous propose d'écouter donc une lettre écrite par Simone du 18 février 1948.
Samedi, 18 février 1950. Mon très cher merveilleux, trop occupé au loin, enfin une lettre. Au bruit, quand elle a glissé ce matin sous la porte, j'ai su et j'ai bondi hors du lit. Je me doutais qu'elle arrivait puisque j'avais télégraphié hier, comme on pressent que le soleil brillera, quand finalement on a trouvé un parapluie. Une lettre s'est égarée, celle du 4 février, où je pense que vous me racontiez votre voyage, les Indiens d'Albuquerque et je ne sais quoi d'autre, ce qui a suffi pour me laisser sans nouvelles pendant plus de 2 semaines. D'abord, je me suis moquée de moi. Les Indiens vous avaient peut-être pris en otage. Puis, je me suis sentie mal à l'aise. Et pour finir, ces cauchemars où vous étiez mort m'ont poussée à vous télégraphier. Je sais que vous détestez ça, alors pardonnez-moi. Mais vous avez besoin, vous aussi, d'être pardonné pour m'avoir fait si peur. Je ne sais lequel de nous punira l'autre. En fait, j'ai cessé de vous écrire depuis une semaine. Non pas par manière de sanction, d'ailleurs. Étant donné que vous vous plaignez de recevoir plutôt trop de lettres. Ça ne marcherait pas. Je n'avais pas le courage d'écrire dans la solitude. Pas même sûr que vous receviez quoi que ce soit dans cette maison inconnue de Lemoigne. Blague à part, chérie. Quand vous disparaissez, le soleil disparaît. Et ces premiers jours de précoce printemps parisien ont paru affreusement tristes à mon pauvre cœur. La seule bonne chose, quand j'ai tremblé de vous perdre, c'est le bonheur qui m'inonde en vous retrouvant. Je suis heureuse aujourd'hui en un sens sans raison. En effet, qu'ai-je reçu ? Une misérable babiole de rien du tout. Mais c'est ma minuscule babiole d'amour à moi, mon Nelson à moi, stupidement très précieux à mes yeux. N'est-ce pas bizarre ? Oui, chérie, une fois la lettre en main, sûre une fois de plus que vous étiez un être vivant réel, je me suis reglissée dans mon lit, imaginant un court moment que je dormais